Non, mais tu te prends trop la tête.
T'es trop susceptible, trop sensible.
Tu gâches ton potentiel.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des atypiques du cerveau de Noël. Aujourd'hui, on va inverser les rôles, on vous avait prévenu. J'ai Pascal, mon premier interviewé, qui m'a proposé un challenge. On a réfléchi à une façon de faire une interview, un regard croisé, une battle, je ne sais pas comment on va l'appeler.
Tu es l'interviewé aujourd'hui, mais on va, pour épicer un petit peu cette interview, mettre ton profil au potentiel en miroir avec un Asperger et voir un petit peu quelles sont nos similitudes et quelles sont nos différences. Commençons par ce qui, je crois, définit quand même un haut potentiel, c'est le quotient intellectuel. Vas-y, dévoile-toi.
C'est vrai que c'est un sujet hyper tabou. En général, les gens n'en parlent pas. Ça m'a un peu égal parce que on peut tout et rien mettre derrière un chiffre. Mon QI est ce qu'on appelle hétérogène, c'est-à-dire que quand on passe le test, il y a plusieurs sous-tests. Et s'il y a une trop grande différence entre plusieurs sous-tests, on dit que c'est hétérogène. Donc, on n'a pas le droit de donner un QI officiel. Donc on peut donner une estimation. Moi, ça avait été estimé haut potentiel intellectuel, voire très haut potentiel intellectuel, tant aux alentours de 140. J'ai aussi une hypersensibilité.
Pour mon cas, l'Asperger peut avoir de grandes différences d'un test à l'autre en fonction de ton état psychologique. Je varie 118, 120, et puis je peux décoller 10 points si je me sens très bien. Quelle est ton empathie?
Elle est forte, voire très forte, voire trop forte. Je ne sais pas comment la qualifier. Je suis une vraie éponge à émotion, même lorsque je ne le souhaite pas. Quand quelqu'un se tord la cheville dans un film, j'ai physiquement mal. Je laisse imaginer les films d'horreur, je ne les regarde pas. Je peux être aussi en empathie avec quelqu'un qui se met à pleurer. Cela va m'atteindre et sans pouvoir forcément le contrôler.
J'ai une très grande sensibilité aussi sur certains sujets. Peut-être que là, on a une petite différence, c'est que j'ai du mal. Si j'ai un ami qui est en souffrance et qui se confie à moi, qui se met à pleurer, j'aurais, moi, de mon côté, du mal à savoir comment réagir. J'aurais tendance à vouloir partir en courant. Quand je vois cette empathie émotionnelle que tu as, puis cette grande sensibilité, je me pose des questions sur les émotions générales, l'hypersensibilité.
Chez moi, c'est à la fois de l'hyper-émotivité et aussi ce qu'on appelle l'hyperesthésie. L'hypersensibilité au niveau des sens, particulièrement les sons, le bruit, la lumière et les odeurs, et dans une moindre mesure le toucher. Là, mon écran d'ordinateur, il est vraiment au minimum de la lumière, où chez moi, les lampes, en général, je les mets pas très fortes. Quand quelqu'un parle fort, ça va vraiment m'agresser très fortement les oreilles, couper toutes les étiquettes.
Ça me rappelle, la première fois qu'on a parlé ensemble, je pensais tout de suite que tu étais Asperger. C'est fascinant parce qu'on voit toutes les touchpoints qu'on peut avoir. Je peux pas traverser une gare sans avoir un casque. Pareil, bienvenue au club pour le découpage des étiquettes, des t-shirts, des pulls, etc. C'est vraiment intéressant de voir qu'effectivement, quoi, cette sensibilité ou ce haut potentiel que tu as, ce n'est pas, je dirais, que intellectuel, analytique, hein, mais qu'il est aussi vécu au niveau des émotions. On va passer à l'expression des émotions. Donc, comment tu communiques tout cela?
Plutôt bien si je sens qu'en face, la personne est dans l'écoute et en réception, d'où peut-être l'empathie qui va aider. Et je sais aussi que sur les émotions, ça peut m'arriver de bugger. C'est-à-dire que je peux avoir une dichotomie parfois entre des émotions et la raison. Parfois, j'ai l'impression que j'ai des émotions qui sont très fortes, qui m'assaillent d'un côté, et le cerveau qui va essayer de pondérer de l'autre côté. Donc ça, c'est notamment si je ne suis pas alignée ou si j'ai des émotions trop fortes. Dans ce cas-là, je peux bugger et le cerveau va tout couper. Il faut le temps, en fait, que les deux se reconnectent.
Très intériorisé. Là, je vois une différence parce que pour moi, il est très difficile d'exprimer mes émotions, mes sentiments. Quand il y a certaines choses que je n'arrive pas à comprendre, je peux me mettre en colère. Et c'est pas une colère, attention, qui est dirigée vers l'autre. C'est que je peux quitter la pièce et essayer de comprendre un petit peu ce qui vient de se passer et de voir comment moi, je peux de nouveau me reconnecter avec les autres. On était dans les émotions. Quel est ton rapport, avec ton corps, à l'environnement, à l'espace, aux objets?
Parfois, j'ai l'impression d'être un peu trop dans ma tête et donc assez maladroite. j'ai quelques bleus ici ou là parce que j'ai pas forcément une bonne notion non plus de l'espace et de repérage dans l'espace. En revanche, je suis plutôt à droite en tout ce qui est travaux manuels et j'aime beaucoup ça, de précision. Ça va justement me permettre de me vider le cerveau parce que je me concentre sur les gestes et sur l'action. Et donc ça, pour moi, c'est très, très agréable.
Tes maladresses sont dues à une intériorité. C'était plongé dans tes pensées et tu fais abstraction du monde environnement. Donc, tu vas te connaître, mais tu es à droite. Alors là, opposition totale. Hein. Je suis absolument très, très maladroit avec mes mains. Le easy opening, pour moi, c'est tout de suite le stress et des sueurs froides. Généralement, quand je finis d'ouvrir une boîte, ce qui est à l'intérieur du le contenant est détruit. Alors, je me suis dit que là aussi, on allait être encore de nouveau un petit peu en opposition. Ce sont sur les intérêts intenses. J'imagine que tu t'intéresses à tout.
Oui, parfois à trop, ou en tout cas, alors je peux avoir des intérêts réguliers, récurrents, qui m'intéressent plus que d'autres, mais globalement, ça va être de la curiosité sur tout. Lire un truc, je vais me dire, ah tiens, ça, je me demande comment ça marche, puis je vais aller lire un autre article sur un autre sujet, puis après, je vais me dire, ah tiens, mais alors ça me fait penser à ça, puis je vais aller lire autre chose, et puis je partais d'un article qui parle du métro, et puis je vais finir sur le Big Bang, peut-être en passant par la reproduction des fourmis, j'en sais rien. Il y a cette espèce de soif de connaissance, de savoir qui est insatiable, et ça c'est à la fois super, mais parfois ça peut faire partir très loin.
C'est fascinant parce que les Asperger rentrent dans des obsessions sur un sujet qu'on va creuser pendant 3 mois, 6 mois jusqu'à épuisement. Il y a aussi des obsessions qui restent toute la vie. Moi, c'est le maniérisme italien et la mythologie. Tu es capable de t'investir sur de multiples sujets en même temps, donc j'imagine que tu es très bonne en multitasking.
J'ai besoin de faire plusieurs choses à la fois pour être plus pertinente. Quand j'étais petite, j'avais besoin, par exemple, de regarder la télé ou d'écouter la radio pour faire mes devoirs en même temps, ce qui rendait mes parents un peu fous. Et c'est pareil au travail. J'ai besoin de faire plusieurs choses à la fois, d'être sur plusieurs dossiers, de faire, je sais pas, être en call et en même temps faire un mail ou dans une réunion, etc., pour garder mon attention. C'est pas toujours compris, donc il faut faire attention, parce que si on est toujours sur son téléphone pendant que quelqu'un est en train de prendre la parole, ça peut être mal interprété. Mais pour moi, c'est une façon de pouvoir continuer à me concentrer sur le sujet, sinon ça capte pas assez mon attention. En revanche, je peux être capable de me concentrer sur un sujet si je suis ce qu'on appelle en état de flow, absorbé dans une tâche qui me demande vraiment une concentration intense. Là, je peux voir passer les heures en étant que sur un seul truc et sans m'en être rendu compte.
Mais je m'imagine que même en te plongeant dans ce sujet, il y a des ramifications et que tu es capable...
Ah, ça part dans tous les sens, oui, ça. Ça part dans tous les sens.
Exactement. Donc, dans le sujet, tu refais du multitasking. Moi, je suis vraiment très linéaire, très, très monotask et j'ai ma petite to-do list et je passe d'un sujet à l'autre. Mais dis-moi, rassure-moi, là, pendant cette interview, tu es 100% sur l'interview, tu écris des emails ou même peut-être une thèse en même temps. En préparant l'interview, tu as avoué que tu répondais à des emails en même temps. Donc,
oui.
Voilà.
Oui, ça t'a pas gêné.
Ah non, je m'en étais pas rendu compte, il n'y avait aucune interruption et ça n'avait pas gêné la fluidité de la discussion, de notre discussion. Donc non, j'étais très impressionné, parce que ça, j'en suis totalement incapable. Au niveau de l'imagination...
Pareil, ça part dans tous les sens. Ça peut être très intéressant parce que ça permet de penser à des choses, de connecter des points ou des signaux faibles qu'on n'aurait peut-être pas envisagés ou qu'on n'aurait peut-être pas osé aller connecter. Pour autant, parfois, ça peut être aussi trop envahissant. C'est-à-dire, si quelqu'un a un bouton off, je veux bien, ça me permettrait de dormir plus simplement. Je sais pas déconnecter. Et voilà. Et parfois, ça peut partir très loin.
Alors moi, j'ai lu des articles assez clichés sur les Asperger qui n'ont pas d'imagination. On serait incapable, en lisant un livre, de se projeter, d'imaginer le personnage et tout. Là, ça m'a toujours un petit peu surpris parce que je suis beaucoup dans la rêverie. Mon imaginaire peut partir comme ça très souvent et aller assez loin.
C'est pour ça qu'en préparant, on est parti un peu dans tous les sens, un peu tous les deux quand même, ne nie pas. Mais après, on a fait un tableau récap pour qu'on soit vraiment dans un mode un peu plus linéaire sur comment on allait avancer sur cet échange.
D'ailleurs, c'était très amusant parce que mon tableau était très linéaire et toi tu m'as dit on va quand même ne pas s'engager comme ça sur une autoroute, hein. C'était assez amusant. Alors le changement, une soirée, une après-midi, un meeting prévu et puis soudainement un imprévu, comment tu vas gérer ça?
Mal si c'est pas moi qui l'ai initié, c'est-à-dire que s'il y a un plan et puis on se dit ah ben non mais en fait c'est peut-être pas le bon plan, tant pis, on balance tout, on refait différemment, là ça me gêne pas tant que je trouve que ça a du sens derrière et que c'est une volonté et que c'est pour partir sur autre chose. J'ai pas de mal en tout cas à me remettre en question et à recommencer s'il faut refaire. En revanche, c'est vrai qu'un changement inattendu, quelque chose qui vient comme ça bouleverser ce qui était prévu ou ce que moi je m'étais prévu dans ma tête, ça peut me stresser et voire ça peut m'angoisser beaucoup. Après, je vais prendre sur moi et derrière je vais rebondir, je vais me suradapter peut-être, mais si on m'annonce un dîner chez des amis où il est censé avoir 3 personnes et qu'on me dit « ah bah non, finalement ce serait au resto et on sera 12 », pour moi, c'est une grosse angoisse. Ça va être très compliqué parce que c'est pas du tout ce que j'ai visualisé. Pareil, si j'ai un lieu de rendez-vous, je dois aller quelque part. Souvent, je vais avoir tendance avant à essayer de me renseigner, ne serait-ce que pour visualiser donc le chemin ou une photo des lieux ou autre. Et si on me change de truc au dernier moment, voilà, ça va me stresser parce que je vais plus avoir cette visualisation-là. Je crois que ça, il y a des similitudes là-dessus, je crois. Hein.
Oui, oui, puis j'étais très surpris en découvrant ça. C'est identique, hein. Je vis très, très mal le changement. J'ai besoin de programmer. J'ai des agendas que je remplis très bien à l'avance pour savoir ce que je vais faire le week-end, ce que je vais faire dans la journée. J'ai besoin d'organiser. Et s'il y a un changement, je le vis très mal. Je peux m'adapter comme ne pas m'adapter et fuir. Et maintenant, on passe sur l'autre, le rapport à l'autre, cette sensation de décalage, de comprendre les small talk, les blagues, les réflexions. Comment le vis-tu ?
Oui, alors il y a un décalage. Je ne sais pas si c'est exactement le même. En tout cas, un sentiment de fort décalage que j'ai toujours eu, hein, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus pendant longtemps, sans pouvoir expliquer pourquoi. Alors le small talk, oui, bon exemple, pourquoi je ne peux pas, je n'y arrive pas, je ne comprends pas l'intérêt. Ça prend beaucoup d'énergie. Je peux le faire, hein, mais ça va falloir vraiment prendre sur moi. Et pareil, le rapport à l'autre, pourquoi quand j'étais petite, je ne comprenais pas en fait les intérêts des personnes de mon âge en général. Et donc j'étais vue comme un peu bizarre. Donc moi-même, je me disais juste, je suis juste bizarre, je sais pas où est le problème, mais il y a un truc qui fait que...
Pour nous, il est très difficile de comprendre les autres, le regard, les expressions du visage, le langage corporel, avoir vraiment tous ces codes sociaux sont difficiles pour nous à interpréter. Toi, tu vis comment ce rapport à l'autre ?
Je sais que je comprends bien, justement, voire très bien, tous ces petits signaux que la personne parfois n'est pas même consciente d'avoir envoyé. Le moindre petit haussement de sourcil, même si ça va être inconscient chez moi, je sais que je vais faire le lien et ça rejoint la notion d'empathie tout à l'heure. Et ce qui fait que parfois, j'ai l'impression que autant je peux comprendre très bien la plupart des personnes, mais l'inverse, c'est pas forcément vrai. Ça peut être aussi frustrant, tout comme je me suis rendu compte aussi pendant longtemps que je m'auto-censurais. Quand j'étais plus jeune, j'utilisais des termes qui n'étaient pas forcément de mon âge ou qui paraissaient un peu ampoulés, un peu décalés. J'en trouvais ça bizarre et je faisais ça exprès, alors que moi je voulais juste utiliser le bon mot au bon moment. Je me suis rendu compte qu'au fil des ans, j'essayais de trouver des mots de substitution pour pas que ça fasse bizarre et qu'on ait l'impression que je me la pète en parlant ou que je sais pas. Il y a beaucoup, beaucoup de suradaptation. Masquer sa différence, j'avais pas forcément conscience de cette charge mental là.
J'ai le sentiment que tu scannes en permanence ton environnement et que tu analyses tout H24.
C'est pas une volonté de ma part en tout cas, mais c'est vrai que ça peut énerver les gens ou parfois je sens qu'il y a quelque chose qui est pas aligné, donc je vais aller questionner la personne, pas pour l'embêter, mais parce qu'en fait j'ai un besoin de comprendre et je sens qu'il y a un truc qui est pas logique et donc du coup je vais aller creuser pour comprendre, juste pour comprendre. Mais ce besoin de compréhension, parfois poussé à l'extrême, ça peut mettre mal à l'aise. C'est vraiment un besoin juste de compréhension, de trouver du sens.
Tu parles de sens, c'est une transition sur le prochain sujet qui est le sens de la justice. J'imagine qu'il doit être très fort chez toi. En tout cas, chez l'Asperger, il est immense. Où l'injustice, c'est quelque chose qui est insupportable, quoi, qui peut me réveiller la nuit, qui peut me retourner pendant plusieurs jours et vraiment occuper mes pensées.
Je pense que le seul moment où je m'autorise de la colère, c'est justement quand on bafoue ces valeurs-là, sens de la justice. C'est vraiment les rares cas où je peux vraiment sortir de mes goûts, parce que c'est intolérable pour moi.
Ah, je me sens moins sale. Alors, on parle du sens de la justice, on tombe dans l'harcèlement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu justement ?
Alors, le harcèlement, oui, j'en ai connu dès l'école. Je pense que c'était le fait d'être différente, en décalage. Et j'ai eu pendant quasiment toute ma scolarité. Ça m'est arrivé aussi à quelques reprises après dans le monde du travail. Maintenant, je sais repérer certains signaux. J'essaye en tout cas de mieux m'en préserver. Au-delà même du harcèlement, des sujets comme le burn-out ou des choses qui peuvent être liées, côté bon élève ou autre, ou harcèlement, ou vouloir bien faire, etc., je peux m'épuiser au travail.
Ton syndrome de la bonne élève, de vouloir toujours mieux faire, bien faire, de se dépasser, de vouloir dépasser les attentes de l'autre.
C'est pas les attentes de l'autre, je pense que c'est les attentes de moi-même par rapport à moi-même, le côté syndrome de l'imposteur. D'accord. Parce que je me suis rendu compte, en fait, au fil des ans, que les gens en attendaient en général beaucoup moins de moi que moi-même j'en attendais de moi. Parce que moi, j'ai l'impression que ce que je fais, en général, ça ne suffit pas.
Il y a une petite différence là, c'est que l'Asperger, comme il ne comprend pas les codes de la société, il a besoin de trouver quelqu'un sur qui va pouvoir copier. Alors, est-ce qu'au niveau de l'introversion, est-ce que tu as ce besoin de moments de solitude, de moments de calme pour recharger tes batteries?
Pendant longtemps, j'ai cru que c'était pas normal, c'est-à-dire que les amis et tout, ils sortaient, et c'est comme ça qu'ils se ressourçaient. Oui, moi, une soirée seule avec un bon bouquin, ça m'allait bien aussi. Ça met du temps et j'ai compris que j'avais besoin de temps seul pour me ressourcer. Et maintenant, je me l'autorise.
Pour moi, j'ai ces moments où j'ai besoin de cette solitude pour me régénérer, mais il y a aussi peut-être des moments, je l'avoue, où il y a une solitude qui isole, que je dois gérer pour que ça ne se transforme pas en enfermement, un mutisme. On parle du besoin de temps seul, ça nous met en miroir à la relation avec les autres. Comment tu te définis, toi, par rapport aux autres?
Très timide, mais en général, on ne m'identifie plus, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, comme timide, mais très timide. Je ne sais pas aller vers les autres. Si on vient vers moi, ça va, parce que je vais comprendre dans quel état est l'autre, comment réagir. Mais pour moi, c'est compliqué. Parfois, je dois essayer de me rappeler. Alors là, attends, tu lui as pas posé de questions, il faut que tu lui poses de questions. Attends, là, il faut un peu que tu parles de toi. Attends, là, il faut, etc. Et parfois, je me vois faire les choses et je suis en train de me juger. Et je me dis, attends, mais là, il faut faire ci, là, il faut faire ça. Et donc, du coup, je suis pas vraiment dans le moment. Donc, le curseur est pas toujours évident à gérer.
Ça me parle beaucoup. Il y a une chose où je pense qu'on doit être différent, c'est que je t'imagine très diplomate. Alors que pour moi, peut blesser des gens sans m'en rendre compte. Écoute, on a fait le tour des sujets que j'avais listés. Je vais reprendre ta formule, je vais te copier, tu vois. C'est le côté Asperger, peut-être, qui prend le dessus, mais je vais faire comme toi. Je vais dire, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message?
Ouais, deux choses. Oui, il y avait des personnes qui m'avaient envoyé des questions. C'est pas qu'on les a totalement oubliées, hein, je tiens à le dire. C'est juste que ça fera l'objet d'autres choses. Il y en a qui mériteraient un épisode. C'est pas du tout qu'on est passé à côté de certaines. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'exercice là que tu m'as proposé, c'est le côté, alors on a appelé ça battle pour rigoler, mais c'est que justement, ça montre bien qu'il n'y a pas de cases, parce que souvent on dit oui, atypique du cerveau, alors toi, tu vas être avec un autisme Asperger, toi tu vas être avec un HPI, toi tu vas être, etc. Déjà, on peut être plusieurs choses à la fois. Tout le principe aussi de cette notion de diversité cognitive, c'est de sortir des cases. C'est pas pour recréer d'autres cases, et je trouve que c'est intéressant aussi ce qu'on vient de faire là en rigolant, parce que au-delà d'apprendre des choses sur toi et sur moi, ça montre aussi que, bah oui, il y a des choses différentes, heureusement, mais il y a aussi des choses sur lesquelles on se rapproche plus que peut-être on ne l'aurait penser quand tu lis notre description de profil type entre guillemets. Et ça, je trouve que c'est important aussi de vraiment bien avoir à l'esprit, bah parce que c'est toute cette notion justement d'être dans l'inclusion et de pas penser en mettant des étiquettes. Je pense que c'est intéressant aussi pour que les personnes prennent un peu de recul, parce qu'on peut aussi ne pas avoir de bilan sur une quelconque différence et pour autant se reconnaître dans des choses qu'on a dites et encore heureux, quoi.
Finalement, on a plus de similitudes que de différences et c'est rafraîchissant.
Exactement.
Eh bien, merci.
Merci beaucoup. Bah, belle fête à tout le monde. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.